10h47. Votre café, chef.
Merci.
Petar Velika tendit le bras sans prendre la peine de se retourner et saisit le café que lui tendait le lieutenant Julio Flores. Quelques autres policiers s'affairaient au rez-de-chaussée du Red Corner.
Je vous ai pris un Cathy Blend, précisa Julio. Café de saison. Saveur de citron, d'épices et de fruits rouges.
Le commandant arrêta le gobelet à quelques centimètres de ses lèvres.
T'es sérieux ?
Ça vient direct d'Afrique de l'Est. Un truc unique au monde.
Petar fronça les sourcils et observa avec consternation son adjoint.
Vous préférez le mien ?
Proposa Julio.
Café Verona. Rencontre de l'Amérique latine et de l'Indonésie avec une touche de rost italien.
Petar baissa les yeux vers le breuvage noir.
Le café des amoureux, insista Julio. Il se marie bien avec le chocolat et...
Il s'arrêta soudain, se rendant compte que le commandant crispait ses doigts sur le café comme s'il hésitait à le balancer sur l'écran géant accroché au-dessus du distributeur automatique de boissons. Il jeta un regard circulaire dans la pièce. Tout semblait automatisé dans le Red Corner. Porte, caméra, distributeur d'alcool, de préservatifs, d'huile de massage. Petar Velika se contenta de poser le gobelet sur la table devant lui avant de s'adresser au policier le plus proche.
« Ryan, tu peux me mettre en route le cinéma ?»
Le jeune policier pianota sur un ordinateur portable connecté à l'écran géant.
« Je serais incapable de te dire comment ils ont fait »,
expliqua le commandant à Julio.
« Mais les gars sont parvenus à brancher les bandes des caméras de surveillance sur cette télé. Installe-toi, mon grand. La séance va commencer. »
Ils s'assirent sur deux fauteuils zébrés rose et or, entourant une table basse ronde en bois verni. Quelques instants plus tard, les images filmées par la caméra extérieure furent projetées sur l'écran. Petar avait eu le temps de caler le film au moment précis où François Valioni était passé devant la vidéosurveillance. 0h23. Valioni s'avançait, détendu, le bras enroulé autour de la taille d'une fille un peu plus petite que lui.
« Stop, Ryan !»
L'image se figea.
« C'est le seul moment où cette fille fixe la caméra, » expliqua Petar.
Julio plissa les yeux alors que son chef grimaçait en trempant ses lèvres dans le gobelet. Le seul plan permettant d'identifier la femme entrée dans le Red Corner avec Valioni ?
Pas gagné, pensa le lieutenant.
La fille portait un long foulard sur les cheveux, ample et lâche, qui dissimulait dans l'ombre de ses plis l'essentiel de son visage. Le foulard la rendait en partie méconnaissable. On ne distinguait d'elle que deux yeux sombres, semblant défier les futurs spectateurs, une bouche très maquillée, un menton fin. La première pensée qui vint au lieutenant Flores fut que cette fille au visage d'ange ne pouvait pas être la meurtrière. Il essaya de chasser cette intuition stupide.
« Bizarre, chef, non ? Fixer ainsi la caméra si c'est elle qui a taillé les veines de Valioni ?»
Le commandant n'avait pas touché à son café. Il suivait des yeux Ryan aller et venir entre les fauteuils, aussi agité qu'un serveur qui viendrait leur proposer la carte des cocktails.
Ça ne dure qu'un quart de seconde, Julio. Et cette petite garce ne nous montre que ce qu'elle veut. Elle m'a l'air de parfaitement savoir ce qu'elle fait avec son tchador.
C'est pas un tchador, chef.
Le regard de Petar glissa sur le voile.
Un niqab, si tu préfères, un hijab. Appelle ça comme tu veux, mais...
Regardez mieux, chef.
Le commandant se retourna vers son adjoint, agacé. Le gamin était rapide, efficace, malin, mais un poil trop impertinent.
« Il y a des motifs imprimés sur le tissu, » expliqua Julio. « On dirait des chouettes. Des motifs discrets de chouettes beige et ocre. »«
J'avais vu. Et alors ?»«
Eh bien, des chouettes sur un voile religieux, je ne sais pas si c'est trop... »
Si c'est trop réglementaire, c'est ce que tu sous-entends ?
Petar Velika pivota et interpella le lieutenant Elfassi.
Ryan, du point de vue du Coran, c'est toléré des trucs dessinés sur un voile ? Des petites fleurs, des animaux ?
Le lieutenant Elfassi s'approcha.
Je n'en sais strictement rien. Mes cours de Coran remontent à la maternelle. Commandant, est-ce que parce que vous êtes croate, je vous demande de me réciter le nom des 12 apôtres ?
Petar soupira.
Ok, Ryan. Épargne-nous ton couplet et fais un effort. Si vous insistez, je dirais plutôt que ce n'est pas toléré, mais...
Le lieutenant observa plus attentivement le voile sur l'écran.
Ça reste discret. Il y aurait des Mickey dessinés sur le voile, je dis pas, mais là, franchement, c'est pas choquant. Tes compétences théologiques sont bluffantes, Ryan. Ça nous avance un maximum. Tu me sortiras des photos agrandies de ses yeux, ses lèvres, son nez, son menton. Tout ce qu'on peut exploiter. Avec un peu de chance, ça suffira à identifier notre mante religieuse.
Un détail dérangeait Julot. Cette façon dont la fille défiait l'objectif. Comme si tout avait été calculé. L'infime instant où la caméra pourrait la fixer furtivement. Si elle n'avait pas voulu être repérée, il lui aurait suffi de ne pas lever les yeux, de rester dissimulée sous son foulard. L'inconnu semblait délibérément leur avoir laissé un indice, une trace d'elle, mais floue et trouble, insuffisante pour être identifiée. Comme ces tueurs en série dans les romans, pensa Julot, qui narguent les policiers en leur envoyant des courriers, pour les aider quand ils pataugent trop, ou pour les envoyer sur une fausse piste. Même si on l'identifie, fit Julot, ça ne signifie pas forcément que cette fille est la meurtrière. Le commandant Velika s'était à nouveau penché sur son gobelet. Il releva les yeux avant de répondre.
Elle entre dans le Red Corner avec François Valioni. Ils montent dans la même chambre. Quelques heures après, Valioni est retrouvé ligoté et saigné sur son lit. Je ne sais pas ce qu'il te faut.
Peut-être qu'elle jouait seulement le rôle de rabatteuse. On n'a aucune trace d'elle sortant du Red Corner, sur aucune caméra de surveillance. Peut-être que Valioni était encore vivant quand elle l'a quitté et que son meurtrier est venu le rejoindre ensuite. Pétard avait écouté, amusé, les hypothèses de son adjoint, avant de soudain exploser de rire.
« T'es amoureux, mon Roméo. C'est moi l'instinctif. C'est toi le scientifique. Et tu me balances toute ta théorie à la gomme, parce que cette fille a de grands yeux mélancoliques, une bouche en cœur et une petite silhouette d'oiseau fragile. »
Le lieutenant rougit. Ce salaud de Pétard était décidément à la fois le plus fin et le plus lourd de tous les flics de la brigade. Il toussa, vida son gobelet sous le regard moqueur de Pétard. Café Verona, le café des amoureux. Julot chercha une diversion. Une question lui brûlait la langue.
Au lieu de délirer, patron, parlez-moi plutôt de cette association où bossait François Valioni, Vogelzug. Apparemment, vous avez l'air au courant.
Effet immédiat. Le visage du commandant Velika passa d'hilare à sévère. Un smiley qui inverse sa bouche parenthèse. Il parut troublé au point de vider la moitié de son Catty Blend sans même grimacer. Il se contenta de quelques mots d'explication.
Vogelzug est l'une des plus grosses associations européennes pour la défense des migrants. Plusieurs centaines de salariés en Europe et en Afrique. Vogelzug signifie « oiseau migrateur » en allemand. Il paraît que chaque année, plus de 5 milliards d'oiseaux traversent la Méditerranée sans que personne leur demande leur passeport ou un permis de séjour. Tu piges le symbole ? Le siège de Vogelzug est installé à Marseille, mais on en retrouve des antennes tout autour de la Méditerranée. Forcément, ils sont amenés à bosser avec les douanes, les policiers, les politiques. Ils ont passé des accords officiels avec Frontex, l'agence européenne pour la gestion des frontières. Ça te va, Roméo ?
Parfait, patron. Je vais essayer de creuser ce que notre responsable du service financier faisait au milieu de tout ça. Et sachez que Roméo n'a pas perdu son temps pendant qu'il attendait son café Verona au Starbucks.
Il alluma son portable, qu'il installa devant eux sur la table basse. Sur l'écran s'afficha le coquillage trouvé dans la poche de François Valioni.
J'ai fait tourner un logiciel de reconnaissance d'images. Je pensais qu'il allait mouliner pendant des heures, qu'on allait trouver des millions d'images de mollusques ressemblants.
Et ? S'impatienta Pétard.
Eh bien, pas du tout. En quelques secondes, j'avais ma réponse. J'ai retrouvé les frères jumeaux de ce bigorneau. Tenez-vous bien, chef. Cette porcelaine de 3 cm est un trésor de la nature hyper rare dans le monde. On ne la trouve que dans quelques endroits précis sur la planète.
En Méditerranée ?
Perdu. Les cousins de ce coquillage se la coulent douce uniquement sur les plages des Maldives, au large de l'Inde. Uniquement là-bas. Aucun doute. J'ai tout vérifié. Forme, ouverture, coloration.
Qu'est-ce que Valioni est allé foutre là-bas? Ça dépasse très largement le champ d'action de Vogelzug. Et pour la prise de sang, tu as avancé?
Doucement, patron. Je n'ai disposé que de quelques minutes au Starbucks. Le temps qu'une charmante petite serveuse vous concocte ce filtre d'amour.
Pétard sourit en baissant les yeux vers son gobelet tiède à moitié vide.
Mais j'ai tout de même ma petite théorie, à consolider. Il n'y a que ce bracelet rouge déchiré sur lequel je n'ai aucune idée et...
Ils furent interrompus par des éclats de voix à l'entrée du Red Corner. Une fourgonnette de police venait de se garer en trombe. Deux policiers en sortirent.
Pétard, on a des invités surprises dans le camion.
Julo jeta un dernier coup d'œil sur l'écran à la fille au foulard, comme happée par son regard, puis suivit Pétard vers la sortie du Red Corner. Un flic leur désigna deux Africains assis à l'arrière du fourgon. L'un, âgé, semblait résigné. L'autre portait une longue cicatrice du front au menton et collait sa figure déformée par la colère contre la portière.
Deux clandestins qui traînaient près du port, précisa le policier, sans papier. Ils regardaient la mer comme s'ils avaient envie de la retraverser.
Pétard passa ses mains dans ses cheveux en broussaille, puis laissa retomber ses bras dans un geste d'impuissance, comme pour signifier qu'il avait d'autres chats à fouetter.
Ok, concéda-t-il. Ramenez-les au poste. On va essayer de trouver d'où ils viennent, histoire de savoir où les renvoyer.
Le clandestin âgé semblait perdu dans ses pensées. L'autre, balafré, s'était mis à frapper sur les vitres blindées. Ce ne fut pas sa colère qui choqua Julo, ni l'indifférence des policiers. Depuis un an, il s'était progressivement habitué à ne plus chercher où passait la frontière entre misère et violence. Ce fut le poing aplati contre le verre de la portière. Un poing d'ébène, une paume claire. Et accroché au poignet du balafré, un bracelet bleu sanglait ses veines.